19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, vous le savez c'est toujours un plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et ça peut que nous réjouir. Allez c'est parti au sommaire de cette émission chers amis auditeurs, vous savez quoi, nous allons aller direction dans le 78, Mantes-la-Jolie où nous allons nous adresser, vous savez quoi, à une polémique qui ne cesse d'enfler sur le tarif, figurez-vous, de la cantine pour une fillette qui a subi du harcèlement. On va en parler, qui a dû même d'ailleurs changer d'école. On en parlera direction Mantes-la-Jolie avec deux invités dans une poignée de minutes, Lina et Sonia, qui seront avec nous. Ensuite, eh bien, voilà, du beau monde sur ce plateau. Katia Burrier, Gamal Abina, Bruno Pomar, Hassan Barek, tout ce beau monde, vous savez quoi, eh bien, se retrouve pour revenir sur le discours de Macron ce matin. Un peu plus d'une heure, je crois, on n'est pas loin de deux heures, de discours sur l'Europe. Alors, que retenir de ce discours? Beaucoup parlent d'indifférence, beaucoup parlent d'un discours, évidemment, sans grand-chose, sans grande déclaration. Nous reviendrons sur ce discours. L'aide familiale qui commence à scandaliser, vous savez quoi, les Chibani. Pourquoi? Parce que tout simplement, figurez-vous qu'une loi a été votée un peu en express, puisque désormais, il va falloir séjourner non plus, entendez bien, on en parlera tout à l'heure, 9 mois jusqu'ici sur 12, eh bien, on passe à 6 pour en bénéficier. Oui, écoutez bien, si désormais vous avez décidé de partir au Maghreb ou en Afrique noire, ben, sachez qu'il va falloir, pour pas que ça saute, on en parlera tout à l'heure. Les présidentielles, sondages exclusifs, oui. Pour toute une série de personnalités, il y a Marine Le Pen, Édouard Philippe, Bruno Attal. Bref, Le Pen l'emporterait contre tout ce beau monde. Gabriel Attal, j'ai dit quoi, Bruno? Ouais, non, c'est pas la même personnalité. Plutôt Gabriel Attal. Ouais. Je sens que c'est la fatigue qui me gagne. Hein. Heureusement qu'il y a la série de ponts qui arrive. Hein, donc, hein. Les auditeurs ont la parole 01 53 48 3000. Ouais, bah vous le savez. Vous nous appelez, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est à la fois avec Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Et Lina, bonsoir Lina.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous tous, ici même, en direct, vous êtes dans le 78. Dans le 78, justement, on va revenir longuement sur cette affaire qui a suscité notamment une pétition, hein, mais on va en parler, ça se passe à Mantes-la-Jolie. Alors, qui veut prendre la parole des deux, Sonia ou Lina, concernant cette mère de famille des Yvelines à Mantes-la-Jolie, qui a scolarisé donc sa fille, qui aurait été harcelée pour la mettre dans un établissement d'une commune voisine. Alors racontez-nous, parce que moi j'ai besoin de comprendre ce casse-tête pour cette fille qui a dû changer d'école en cours d'année pour des soupçons ou tout simplement du harcèlement scolaire. Qui veut prendre la parole, Lina ou Sonia?
Alors je commence.
Qui c'est Lina ou Sonia?
C'est Lina. Alors moi
Lina.
Je suis Lina.
Oui. Lina, pardon, Lina, je vous écoute.
Alors, je suis membre associatif. La maman nous a contactés suite à l'harcèlement de sa fille qui a débuté très rapidement dans l'école qu'elle était à Buchelet. Donc, les faits ont été avérés aussi bien par la directrice de l'école, par le maire de Buchelet. On a été reçus très rapidement par l'inspectrice académique qui se trouve à Rosny-sur-Seine. Qui a décidé de mettre en place très rapidement le protocole phare. Donc le protocole phare, vous savez, c'est ce qui est dédié aux enfants harcelés. Donc ils envoient des équipes sur l'école en question pour discuter avec les enfants sur l'harcèlement, oui. Pour mettre... voilà. Oui.
Elle a quel âge, la fille?
10 ans.
10 ans.
C'est ça?
Au moment des faits, 9 ans.
C'est Sonia qui parle là. Sonia.
Ouais, voilà.
Sonia.
Au moment des faits, elle a 9 ans.
Oui.
Et actuellement, elle a 10 ans.
Elle a 10 ans. Elle est toujours scolarisée dans la même école ou vous l'avez changée?
Non, justement.
Le protocole phare, c'est un protocole très bien, mais comme tout protocole, il y a des inconvénients, c'est qu'il met énormément de temps à se mettre en place. Et la maman ne voulait pas, pour la sérénité et le bien-être de son enfant, ne voulait pas attendre la lenteur administrative qui aurait pris peut-être quelques mois, parce que sa fille souffrait. La fille, puisque la maman est à l'écoute de son enfant, a exprimé son souhait de changer d'école. Donc, nous avons à nouveau rencontré le maire de Buchelet, l'inspectrice et la directrice qui ont été unanimes sur cette décision en disant que oui, en effet, c'est le bien-être de l'enfant qui prévaut et que si l'enfant veut changer d'école, toutes les autorisations pour les dérogations seront délivrées.
Qu'est-ce qu'elle a subi? Qu'est-ce que vous dénoncez dans cet acharnement? Qu'est-ce qui s'est passé justement auprès de cette fille âgée aujourd'hui de 10 ans? Elle a subi quoi? Des crachats, des insultes? M'a-t-on rapporté des propos racistes? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Alors oui, ça a commencé, vous savez, au début, c'est la petite nouvelle dans l'école, donc on commence par des petits mots pas gentils, on va dire ça comme ça, on va pas les répéter en direct. Ensuite, il y a eu des agressions verbales de plus en plus fortes, comme vous dites, à connotation raciste. Et c'est parti en crescendo parce qu'il y a eu l'effet boule de neige. Hein, vous savez, les enfants, très vite, voilà, ils se sont regroupés contre cette jeune fille. Et il y a eu aussi des agressions physiques, où on lui tirait les cheveux, on lui fait des croche-pieds. Cet enfant, bon, la directrice, et au passage, je remercie vraiment le maire de Buchelet qui a été très réactif, très très réactif, et n'a pas laissé la situation justement s'empirer. Et c'est pour ça que très vite, il a accepté la dérogation de la jeune fille sur une autre école, dans une autre ville.
Alors justement, Sonia est avec nous. Sonia, vous êtes la maman. Dites-moi, Sonia, votre fille aujourd'hui, dans quel état elle se trouve lorsque vous échangez avec elle? Est-ce qu'elle, vous avez le sentiment qu'elle est traumatisée? Comment ça se passe pour elle aujourd'hui?
Alors, en toute honnêteté, au tout début, ça n'allait pas du tout. Ma fille, elle a tenu des propos que je n'avais jamais entendus de ma fille, comme le suicide par exemple. Donc c'est là où j'ai tout de suite dit qu'il fallait stopper. Voilà, parce que ça reste un enfant de 9 ans. Elle ne comprenait pas. Moi, en tant que la maman, le papa, on est des personnes qui avons du caractère. Ma fille, pas du tout. C'est quelqu'un de très gentil, de très sensible. Donc j'ai la chance qu'elle parle, parce que j'ai très bien conscience qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui subissent et qui ne parlent pas. Moi, j'ai eu la chance que ma fille me parle. Donc, elle m'a parlé, j'ai essayé de faire le nécessaire, mais ensuite, comme l'a très bien dit Lila, ma fille a
eu... Vous dites dans une déclaration, Sonia, vous dites dans une déclaration qu'elle a pris cher, votre fille. Qu'est-ce que vous entendez par prendre cher?
Moi, je vais vous dire les mots qu'elle a subis. Désolée si ça choque. Ma fille est métisse. Je suis blanche, le papa est noir, donc ma fille est métisse. On lui a dit qu'elle était sale, qu'elle s'était noyée dans la boue, qu'il fallait qu'elle se suicide parce qu'elle avait un teint dégueulasse. On lui a dit qu'elle était sale. Et après, de plus en plus, c'était un peu plus dur. Et puis ensuite, les violences physiques.
Oui, effectivement, c'est terrible pour vous, maman. J'imagine qu'elle est accompagnée aujourd'hui?
Oui, moi, je ne la lâche pas.
Elle est suivie par... par un psy, accompagné.
Elle a vu un psychologue et là je suis en cours pour qu'elle, parce qu'il m'a conseillé qu'elle envoie encore 2-3 séances. Il trouve que ça va mieux. Maintenant elle a retrouvé ses amis d'avant, elle a changé d'école. Il y a beaucoup d'adultes qui l'ont soutenue, qui lui ont dit que c'était une petite fille forte, courageuse.
Il y a Bruno Pomard, l'ancien membre du RAID justement, qui souhaiterait vous interpeller. Bruno Pomard.
Oui, je suis très triste pour vous, ma chère madame. Est-ce que vous avez demandé des comptes à l'établissement, à la directrice ou au directeur de l'école, tout simplement, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans cette école, éventuellement? Est-ce que c'est seulement votre fille qui a été insultée, menacée ou autre? Ou est-ce que c'est une ambiance générale qui règne dans cette école? Est-ce que le directeur ou la directrice de l'école vous ont au moins convoqué pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait?
Sonia.
Alors, on a rencontré la directrice pas qu'une fois, donc avec la dame de l'association, 2-3 fois. Honnêtement, moi, j'ai trouvé qu'elle a réagi tout de suite. Je ne pense pas qu'il y avait un autre cas, parce que moi, ça a été dès la rentrée, comme c'était la nouvelle. Ma fille, le CP, CE1, CE2, elle était dans une autre école. Comme on a déménagé et que j'étais enceinte, je me suis dit, pour me faciliter, je la mets dans la ville où on vit. Donc, ça a été la nouvelle, donc ça, c'était tout de suite. Moi, je pense que j'ai... Honnêtement, je pense, je ne sais pas si tu me rejoins, Léla, mais j'ai l'impression, pour moi, la directrice, elle était un peu dépassée parce que c'était tout de suite, c'était nouveau.
C'était, alors là, c'est Nina,
oui,
Léla, qui parle.
Oui.
En fait, faut comprendre que la directrice a réagi très vite aussi, mais elle n'avait pas les moyens humains. Surtout, il faut se dire qu'en primaire, on ne s'attend pas à l'harcèlement aussi dur,
oui.
Parce que vous avez entendu les propos qui ont été tenus. Donc, elle a été démunie aussi. Mais sincèrement, ils ont très rapidement mis en place une collégiale entre le maire de la ville, l'inspectrice académique et la directrice de l'école.
Katia Burrier.
Oui, moi,
Katia Burrier qui souhaite aussi...
Parce que j'ai exactement vécu ce que vous avez vécu.
Qui est une élue.
Ouais. Ma fille a été harcelée. Alors, c'était en 6e, elle avait 11-12 ans. Et exactement les mêmes choses, il y a 10 ans de ça. Donc c'est pour vous dire que malheureusement, les choses n'évoluent pas. Enfin, pas assez vite, en tout cas, elles évoluent malgré tout. Parce qu'on voit que la directrice a réagi très rapidement dans votre cas. Moi, elle a mis du temps, elle a réagi à partir du moment où j'ai demandé au maire de s'impliquer dans cette affaire, où j'ai fait des recommandés et que j'ai averti le rectorat. Sinon, rien ne se passait. La directrice demandait à ce que ce soit mon enfant qui change d'établissement. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu quand même une avancée, même si c'est horrible. Et je comprends tout ce que vous me dites, parce que moi, ma fille aussi a voulu m'a parlé de suicide. Et ces enfants-là sont complètement anéantis. Et ça les marque très, très longtemps. Il faut vraiment la faire suivre.
Ouais, raison,
moi, je l'ai fait suivre par un psy aussi. Et même encore aujourd'hui, il y a encore malheureusement encore des séquelles, c'est des enfants soit qui deviennent, enfin il y a des enfants qui s'en sortent très bien et heureusement et dans la plupart des cas, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas des victimes après dans le reste de leur vie. Il faut vraiment bien les faire suivre et je vous comprends totalement dans tout ce que vous racontez parce que ça me fait revivre ce que j'ai vécu il y a 10 ans.
Ouais.
Merci.
Sonia, oui.
Oui.
Conseil précieux.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est oui, effectivement, ça avance, parce que si je me suis rapprochée de Léla, qui est là actuellement avec moi, c'est qu'elle, il y a 15 ans, sa fille aussi a été victime d'harcèlement pendant plusieurs années, et il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc effectivement, ça a évolué,
c'est vrai.
Mais bien sûr, il manque encore énormément de choses.
Ouais. Gamal Abidine,
vous avez... Pomar qui vous a posé une question très précise, vous n'avez pas répondu réellement à sa question, donc je vais l'insister. Est-ce qu'il y a l'ambiance générale de l'établissement, parce que la référence c'est de savoir qu'il y a du racisme, c'est pour ça qu'elle a été harcelée, nouvelle élève effectivement, propos racistes. Est-ce que la question de ces propos racistes a été étudiée? Est-ce que c'est réellement une intention de leur part ou simplement des bêtises? C'est la question qu'il vous a posée et vous n'avez pas répondu. Vous pouvez me dire si effectivement c'était le cas?
Alors, vous savez, ça reste des enfants.
Oui.
La première réponse qu'on a eue, c'est que, et je pense que tous les parents ont cette réponse au début, c'est que c'est des chamailleries entre enfants. Mmh. Sauf que quand on utilise des mots comme ça, c'est plus des chamailleries. Comme vous avez dit, il y a une élue qui a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça a évolué, mais l'harcèlement est vécu de plus en plus jeune. Avant, c'était au collège, au lycée. Maintenant, c'est en primaire. Donc, il va falloir vraiment qu'ils mettent en place quelque chose de concret.
Léla, attends, je vais répondre au monsieur. Je pense que je vais voir où il va en venir. Je vais essayer de vous répondre, moi, du mieux que je peux avec ce que j'ai comme élément. Moi, quand ma fille elle me dit tout ça, moi-même, sans la directrice, je veux comprendre. C'est des enfants. Comment ils peuvent tenir de tels propos? Donc moi, à la sortie d'école, je veux voir quel enfant, je veux voir les parents. Donc j'ai été voir des parents. Et je vais être très honnête avec vous, sur une dizaine de parents, j'en ai 8 qui ont réagi extrêmement bien. Mais extrêmement bien, c'est-à-dire, c'est pas normal qu'ils grondent leur enfant, qu'ils demandent à leurs enfants de s'excuser auprès de mon enfant, et qu'ils demandent à leurs enfants de plus jamais réitérer tout cela. Ouais. Mais j'en ai eu deux, monsieur.
Oui.
J'en ai eu deux qui m'ont dit, c'est pas possible. Ah, mes enfants ne disent pas ça. Ah, ma fille ne fait pas ça. Que voulez-vous faire après?
Dites-moi juste d'une phrase, parce qu'il faut que je lance la pause, ma chère Léla et Sonia. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, le problème, il est autre. Puisque
on a quelques secondes, quelques secondes avant de lancer la pause.
C'est-à-dire qu'on a fini un problème, mais qu'on entame un autre problème.
Je pense qu'on en parle après la pause.
Comment aujourd'hui?
Non, après la pause, on va passer à un autre sujet. Vous m'excuserez, mais... Non, mais dites-moi où vous en êtes précisément.
Je vous explique. Donc, ma fille s'est harcelée, je dois changer d'école, je vais dans une autre ville. accepté. Ok. Le maire de cette ville, donc le maire de Mantes-la-Jolie, me dit textuellement que je dois payer 10,90 €. Je lui explique que ce n'est pas de mon bon vouloir que ma fille a changé d'école, c'est parce qu'elle s'est fait harceler. Il m'explique que elle n'avait qu'à pas changer d'école, donc c'est soit elle paye 10,90 € par jour, je lui explique que l'année prochaine j'aurai mon fils qui sera aussi dans la même ville pour le suivi de fratrie, il m'explique que ça sera 22 € par jour. Là, ce que je veux dire, c'est qu'une maman qui n'a pas les moyens, même moi, comme moi ou comme une autre, parce qu'on a eu énormément de témoignages après la pétition, donc la solution du maire de Mantes-la-Jolie, il en a trois. La première, c'est soit elle paye donc 10,90 € fois le nombre d'enfants par jour. La deuxième, c'est que la ville dans laquelle elle vit paye la différence au maire de Mantes-la-Jolie. Ou la troisième, tout simplement, que les parents remettent leur enfant dans l'école où ils se sont fait harceler. Et je trouve les trois réponses inadmissibles.
Ouais, effectivement. Donc vous avez lancé, vous avez décidé. Non, mais c'est clair, là, effectivement, là, l'évidence. Vous avez décidé de lancer une pétition.
Oui, voilà.
Voilà, pour demander un tarif intramuros pour tous les enfants qui sont harcelés. Et
vous avez bien raison. La pétition, la trouve-vous précisément, Katia ?
Non, je disais, elle a vraiment raison.
Et alors, pour celles et ceux qui veulent signer, vous accompagner et vous soutenir, comme dit Katia Burier, la pétition se trouve-où précisément ?
Alors, nous l'avons mis en ligne sur les réseaux. Et sur les réseaux Facebook, TikTok, Insta.
Ça s'appelle comment?
La pétition. Tu l'as, Sonia, la pétition?
Oui, je l'ai.
Allons-y. La pétition.
La pétition, elle est sur quel site elle est sur...
Leslinesbougent.org.
Alors la pétition,
Leslinesbougent.org. Voilà, je l'ai trouvé. Leslinesbougent.org. Merci, voilà, en tout cas, mesdames. Leslinesbougent.org si vous voulez donc soutenir cette maman Sonia, la maman et sa fille, et puis Lina. Merci Lina, merci Sonia. Bon courage à vous.
Merci à vous.
Tenez-nous au courant surtout, hein.
Très bien, merci.
Merci à vous surtout. Voilà, effectivement, pour celles et ceux. Histoire terrible, hein, terrible. Hein, terrible.
Ça montre à quel point on a encore du travail à faire.
On a encore du travail à faire, effectivement. Oui, allez la soutenir sur les lignes. Vous tapez leslinesbougent.org. Évidemment, ils ont besoin de soutien. A tout de suite, n'oubliez pas, restez avec nous et on entame les débats. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, 19h22, le face-à-face, on lance.
Les informés, le face-à-face.
Femme qui est sur la seule femme d'ailleurs autour de ce plateau, c'est Katia Burier, élue à Saint-Maurice. Bonsoir ma chère Katia, comment
bonsoir,
ça va?
Bonsoir, très très bien.
Tout va bien?
Bah oui.
À vos côtés, c'est Gamal Abina, le porte-parole du mouvement MDC. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir, moins bronzé que, hein, je vous rappelle. Balancer blague, mais bon.
C'est ça.
Il y a de la couleur.
L'ancien membre du RAID.
Pas de discrimination.
Aujourd'hui, le président fondateur de RAID Aventure. Bonjour.
Bonsoir mon cher Adil et bonsoir.
Comment ça
va,
Bruno Pommard?
Super, un grade de forme, prêt à affronter nos amis. Hein.
Acteur associatif et aussi président de plusieurs associations.
Hassan Benmarek.
Il se fait tout présenter.
Pourquoi? C'est bien, il se présente tout seul.
Il n'a pas l'air en forme, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure.
À chaque fois,
il a chopé le Covid il y a 3 semaines.
Donc c'est Ben Benmarek.
Il a chopé le Covid il y a 3 semaines.
Ah merde, ah oui, d'accord.
Hassan Benmarek. Il va quand même.
Ah oui, non, je dis, je ne trouvais pas en forme, c'est pour ça depuis tout à l'heure.
Eh, mais il m'a dit, attends, t'as vu ce qu'il vient de faire comme remarque? C'est Hassan Benmarek.
Fils de Barak. Il va casser la baraque.
Allez, on va revenir sur le discours longuement, ce long discours concernant. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, les amis? Qui veut prendre la parole? Bruno Pommard. Qu'est-ce qu'on retient? Mais surtout, s'il était en campagne, c'est loupé.
Que l'Europe va mourir, c'est tout ce qu'on a retenu. Après, bon, il a beaucoup philosophé, c'est sûr, il parle bien, mais dans le contenu, il n'y a pas grand-chose. Alors, on sait que les Européennes sont proches, que le parti a besoin de gagner quelques points parce qu'on est un peu loin de Glucksmann encore. Glucksmann n'est pas loin de nous, mais le RN est à 32%.
Oui,
donc, il est obligé de monter au créneau comme il l'a fait. Enfin, encore une fois, c'est un discours un petit peu, je dirais, hors sol. On sait très bien que l'Europe va mal. On aurait besoin d'une Europe militaire, militarisée.
Alors,
forte, mais c'est pas le cas.
C'est allé longuement sur des sujets à la fois numériques, à la fois sociales, à la fois économiques, à la fois la Russie, à la fois l'Ukraine, à la fois un petit peu.
Il essaie de faire peur aux Français, de dire allez voter.
Bien, mais...
Oui, mais on sait qu'il y a beaucoup d'abstention. On
mais
le sait
tous. S'il était en campagne, est-ce que c'est réussi?
Moi, je crois pas. Très sincèrement, non, je crois pas. Parce que, de toute manière, les Européennes n'intéressent personne. Les gens ont envie de bouffer, d'avoir de quoi manger à la fin du mois, pouvoir payer leurs factures. Qu'on nous parle de l'intelligence artificielle et toutes ces conneries, franchement, nos sujets.
Katia, Burier.
Bah, je, Bon, c'est 1h45, c'est vrai que c'était un petit peu long. Je pense que la plupart des gens ont peut-être décroché entre-temps, et c'est un peu dommage. Il a essayé de faire un tour d'horizon de tous les sujets qui concernent l'Europe. En même temps, on ne peut pas lui reprocher d'être trop à fond dans les sujets, parce qu'on va lui dire sinon qu'il est en campagne, et on va le décompter.
Non, mais il n'y a pas de nouveauté.
Ah non, non, bah, c'est général.
Et, enfin, et on lui reproche, c'était trop général. Trop techno.
Et après, s'il est...
Trop techno.
Alors, il aurait pu être un peu plus accessible, en tout cas moi je trouve un peu plus accessible à certaines personnes, des termes qui parfois sont difficilement compréhensibles pour tout à chacun. Maintenant, à côté de ça, voilà, il a fait un tour d'horizon de tous les sujets. On ne peut pas lui reprocher ça. Il ne peut pas non plus rentrer trop dans les détails, parce qu'on va lui dire qu'il est là pour faire pour la promotion de la candidate Renaissance. Donc bon, c'est compliqué aussi pour lui, hein, sa position elle est compliquée.
Gamal Amina.
Bah, je ne reprocherai pas à Katia de faire le travail, parce qu'effectivement, elle a une synthèse intéressante. Pour le coup, on sent qu'il y a des gens qui bossent, hein, contrairement à d'autres, hein, dans les poches. Mais plus sérieusement, non, j'ai écouté ce discours un peu fleuve, hein, c'est un petit peu du Castro. La problématique de M. Macron, c'est que c'est quelqu'un qui parle de sujets qui ne touchent pas le grand public. Quand on parle d'intelligence artificielle, il anticipe un mouvement qui n'est pas encore intégré. Ensuite, quand il parle de sécurité européenne, il avait raison au départ. Il faut une Europe sécurisée par elle-même et pas par l'OTAN. Aujourd'hui, il revient sur ce vieux sacerdoce. Alors qu'en même temps, il nous explique qu'il y a une peur à l'Est, l'Ukraine, tout le reste. Donc c'est des vraies problématiques qui sont posées sur les questions financières pour financer la sécurité. Mmh. Il parle beaucoup de sécurité aux frontières aussi, le rétablissement de Schengen, mais au sens large, est renforcé. Il parle beaucoup de flux migratoires. Donc j'ai envie de dire simplement, c'est que malheureusement, même si au départ il n'était pas mauvais, son discours commence à avoir des teintes anxiogènes. On sent bien que c'était mieux avant et que c'est un discours qui pourrait être pris facilement par l'extrême droite.
Ouais, il est revenu à plusieurs reprises sur cette Europe puissante.
Oui, mais la puissance, encore une fois, l'extrême droite. Oui, mais c'est l'extrême droite qui parle comme ça. Faut jamais oublier, je vais être méchant, mais Hitler voulait une Europe puissante sous sa direction. Macron veut l'Europe puissante, non pas sous sa direction, mais dans l'idée de se dire on sera indépendant, parce que dès le départ il avait cette idée de distanciation avec les États-Unis qu'il a marqué et qu'il n'a pas pu tenir. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec M. Macron, c'est qu'il a un discours qui est déconnecté, c'était dit par Bruno, des réalités de terrain, malheureusement, qu'il a un discours qui n'est pas audible et qu'il a un discours qui fait la part belle au Front National, parce que finalement son discours sécuritaire ou anxiogène, qu'on appelle le déclinisme, c'est un concept qui est connu, c'est un discours qui donne le sentiment que finalement c'est le FN qui avait raison.
Hassan Belmarek.
Disons que moi je trouve que c'est un discours important, puisqu'on vient sur des fondamentaux. Et aujourd'hui, depuis la crise un peu en Ukraine et au Moyen-Orient, en Palestine, je pense qu'il y a beaucoup de verrous qui ont sauté. Donc le fait de dire que l'Europe doit s'armer, se protéger, je pense que c'est un discours très très important. Donc il revient sur des fondamentaux. Et aujourd'hui, on le voit très bien. Vous avez des pays comme la Russie. Alors il a parlé de mettre en place un bouclier antimissile, donc je pense qu'il a raison. L'Europe aujourd'hui, en termes de PIB, c'est, lorsqu'on prend le PIB cumulé des 27 pays, c'est 18 milliards. Excusez-moi, 18 000 milliards de dollars. Les États-Unis, je crois que c'est 23 000 milliards. Et juste derrière, il y a la Chine. Et donc, Macron pointe des choses en disant que nous, Européens, on a joué le jeu du libre-échange, de l'économie. En fin de compte, les Américains, les Chinois ne jouent pas le jeu.
Dumping social aussi.
Donc maintenant, il faut arrêter tout ça. Il faut protéger nos industries, réindustrialiser l'Europe, s'armer, parce que on le voit très bien. Aujourd'hui, que ce soit à Gaza, en Ukraine, plus personne ne respecte le droit international. Donc aujourd'hui, il faut s'armer. Et c'est lorsqu'on est fort qu'on peut imposer ses vues.
Beaucoup de réactions politiques, beaucoup de réactions évidemment des oppositions, notamment LFI, moi que je retiens, qui cogne beaucoup. Hein. Notamment la tête de l'IFSA, Manon Aubry, qui dénonce le bilan de Macron au terme de son discours. Arrogance, inégalité, hypocrisie. Elle y va, elle charge le truc. Hein. Elle dit puissance, prospérité, humanisme.
On ne peut pas s'attendre à autre chose.
7 ans à détruire nos industries et services. Qu'est-ce que vous dites
Vous ne pouvez pas s'attendre à autre chose de la part de Manon Aubry, évidemment.
Ouais, hein, mais
en même temps, ils sont à 5%, donc elle a raison d'attaquer Macron pour essayer de
reprendre
le
RN aussi.
Dénonce.
Oui, je suis pas sûr que ça a été les 5%.
Peut-être 7, allez.
Non, mais ils vont monter, ça c'est une
certaine. Oui, non, je crois que Marek a raison. C'est vrai que Macron a tenté, je pense, de faire peur en même temps un peu. De dire allez voter, en gros. J'ai ressenti un peu ça, moi.
Oui, c'est vrai qu'il y a des visées électorales, mais je crois que surtout c'est un discours un peu fondateur. Je veux dire qu'il pose la problématique d'une façon assez sérieuse. Bon, et ce discours s'est tenu où? À la Sorbonne, je crois.
Il m'inquiète, là.
En présence des ambassadeurs de tous les pays européens. Non, je ne suis pas macroniste.
Non, mais
je
t'as vu simplement.
Non, j'assume mes propos lorsque je vois qu'une personne dit des choses sensées et bien.
Et je confirme, il n'est pas macroniste.
Je dis les choses. Donc, pour moi, ce n'est pas simplement qu'il n'y a pas une posture électorale, simplement. Je crois qu'il y a aujourd'hui le monde, on rentre dans une période de chaos. Il y a des verrous qu'on sautait. Et aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus incertain. On est dans un monde de plus en plus incertain. De plus en plus, le nombre d'armes, de ventes d'armes n'a jamais été aussi haut.
2400 milliards.
Voilà. Ouais, et on n'en est qu'au début. On voit qu'il y a des crises, ce serait ce qu'au Maghreb, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, ça se passe pas très bien. Donc tout est possible aujourd'hui, tout est possible. Donc on est dans un monde de plus en plus incertain, et le fait que le président de la République dise aujourd'hui, bon, nous avons des points forts et qu'il faut fortifier nos points forts, affecter des ressources, puisqu'il a abordé la question des ressources en disant, voilà, la question des ressources, et en même temps, il a évoqué un schéma d'organisation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de créer une structure qui s'occuperait... qui regrouperait tous les responsables liés à l'immigration, au trafic, en tout genre.
Marek, on n'y arrive pas.
Oui, mais on va devoir. Non, mais le problème, c'est que si on arrive.
Une Europe d'immigration, une Europe de la défense, etc. Oui, mais, on en parle depuis, j'entends.
Oui, je sais, mais là, le problème, c'est que la situation a changé. Le contexte a changé.
Oui, 15 ans.
Donc le contexte a changé. Et bon. comme le contexte a changé aujourd'hui, je pense que chacun va être face à ses responsabilités, et ceux qui sont dans le pilotage, je dirais, de leur pays respectif, vont se dire, au fond, bon, maintenant, les dangers sont quand même importants, il faut trouver des terrains d'entente et des dénominateurs communs.
Alors, le problématique de Macron, c'est qu'il arrive toujours après la bataille, il faut être très clair. Quand il veut négocier avec les Russes, la guerre a déjà démarré. Quand il parle d'une Europe des armées, l'idée était bonne au démarrage, il n'y a pas de problème. Au démarrage de son premier mandat. Aujourd'hui, il est après la bataille. Je veux dire, je suis désolé, on commence par une Europe qui produit de l'armement. Et quel armement? De la haute technologie, justement. Rien que le Rafale français, c'est un des meilleurs avions au monde. Et l'Allemagne va acheter quoi? 100 milliards aux États-Unis. Donc il y a un problème en termes de gestion. Quand on achète des armes à l'extérieur et qu'on dépend donc des équipementiers américains et des pièces de rechange américaines, on n'est pas indépendant. Le système Patriot européen n'existe pas. Il parle de plein de choses et en plus, il a lancé un budget sur 7 ans de 400 milliards. On fait des économies sur le social, mais on tape sur l'armée. Ça n'a aucun sens. Ensuite, la question du retour des risques et des périls, c'est le retour de la guerre froide. Qui est installé, on le sait déjà, il n'y a pas de problème, c'est évident, mais il faut arrêter d'être dans une Europe anxiogène. La chance qu'on a en Europe, c'est que précisément, à part le conflit ukrainien qui va s'éteindre d'une manière ou d'une autre, l'Europe est stable. C'est ça la question qui se pose. Si l'Europe pense en termes de construction, ce qu'elle a fait pendant 70 ans, 80 ans, on peut s'en sortir. Si elle pense en termes de gestion par le conflit, on ne s'en sortira pas. Et tout à l'heure, Bruno a dit très bien, augmentation faramineuse de 6% des dépenses militaires qui... a intérêt à cela, celui qui vend le plus d'armes, les États-Unis.
Évidemment, évidemment.
Mais pour répondre à Gamal, je dis tout simplement, bon, Monsieur Macron a mené des actions, donc on peut avoir une opinion sur ces actions. Est-ce que elles ont été pertinentes, efficaces? Bon, ça, à la rigueur, je peux moi aussi critiquer certaines de ces actions. Mais moi, je me positionne simplement par le discours, ce qui vient d'être tenu. Et donc, je pense que lorsqu'il est dans une logique de prospective. Et de dire qu'au fond, il faut que l'Europe se construise aujourd'hui, parce que la France, même la France aujourd'hui, ne peut qu'exister dans un espace européen. Les Allemands aussi. Donc tout le monde doit comprendre aujourd'hui en Europe que plus vite tout le monde seront dans des logiques d'union et dans
des politiques... Quoi, une Europe fédérale, tu veux ?
Homogénéisée.
Non. C'est le vieux débat entre l'Europe fédérale et l'Europe des nations. Mais je dis qu'aujourd'hui, l'Europe est un ensemble de 27 pays et qu'aujourd'hui, elle a un rôle à jouer au niveau mondial et qu'elle doit se doter d'organisations de structures pertinentes pour pouvoir peser économiquement, politiquement et militairement.
Je suis totalement d'accord avec ça.
Il est optimiste,
c'est bien. C'est ça, c'est ce qu'il a expliqué. Non, exactement.
Je vois juste le discours, moi. Maintenant, s'il raconte des histoires
nos
ou pas, c'est pas.
Demain,
c'est
on
pas,
veut être.
C'est pas mon problème.
C'est pas mon problème.
S'il raconte des histoires et dit le contraire,
l'an dernier. Mais Bruno Bonnard, il ne faut pas d'une Europe fédérale. Vous répondez quoi?
Il y a l'Europe fédérale, il y a l'Europe des nations. Bon, je pense que la question identitaire, on peut pas la gommer. Je pense que ça peut être une Europe des nations, mais avec des liens très forts et avec des structures supranationales qui s'occuperaient, je dirais, comme sur des problématiques de police,
du régalien,
voilà.
Défense, immigration, parce que là, c'est un vrai sujet. Hein, pour toute l'Europe.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Vous savez quoi? On va parler de l'aide familiale, puisqu'à partir de 2025, il faudra passer de 9 mois en France et non plus de 6. Si vous voulez toujours bénéficier de vous savez quoi, des allocations familiales, de la prime, du minimum vieillesse, bref, on en parle tout de suite après. Et vous pouvez intervenir au 01 53 48 3000. Vous intervenez et vous venez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh oui, 19h37 avec Katia Burri, avec Gamal Amina, enfin avec, pas enfin, non, avec Bruno Pomard et enfin avec Hassan Ben Barek. Allez, on va parler de, c'est quoi, à partir de 2025. Tenez-vous bien, chers amis auditeurs et auditrices. Oui, faites très attention et soyez prudents puisqu'il faudra passer au moins 9 mois en France et non plus 6 pour une année civile pour en bénéficier des, pour pouvoir bénéficier, pardon, des prestations familiales. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire allocation familiale, prime à la naissance, minimum vieillesse, etc., etc. Bref, autant vous dire, c'est un vaste plan de lutte contre la fraude sociale. Tiens, allez, c'est Madame l'élue.
Qui avait été évoquée par Gabriel Attal.
Exact.
Alors qu'il était ministre des Comptes publics.
C'est ça.
Exactement. Donc là, il met en application ce qu'il a dit.
On passe de 9 mois à...
9 mois, alors c'est pas spécialement consécutif.
Hein, et qu'est-ce que vous dites à tous ces Français qui sont d'origine... je sais pas, algérienne, marocaine, tunisienne, en fait, sénégalaise, ivoirienne, équipe, voilà, qui finissent leur vie là-bas, tout simplement.
On ne fait que ce...
Les pauvres, on les condamne, on les pénalise.
À quel niveau on les pénalise?
Ils sont obligés de rester ici.
Ils sont obligés de revenir, surtout.
Oui, ils sont obligés de revenir.
D'être là, 9 mois sur le territoire, donc au lieu de 6, 3 mois de plus. Ça paraît pas déconnant et c'est surtout pour lutter contre la fraude parce qu'il y a énormément de fraudes. Étant dans ce milieu-là, je sais à quel point on a quelques fraudes sociales qu'on arrive quand même à stopper et donc c'est aussi pour éviter ce genre de choses. Après, il y aura toujours des gens très honnêtes.
Ce que j'allais dire, vous pensez vraiment que ça lutte, il y a une vraie lutte
En partie, ça va permettre, il n'y aura pas que ça, bien évidemment. Y a pas
ça
que
pénalise ça. Pas, ça condamne pas ceux qui sont honnêtes, les pauvres et qui.
De toute façon, quand vous mettez en place.
Oui.
Voilà, exactement. Quand on met en place des restrictions, obligatoirement, ça va pénaliser d'autres personnes.
Tiens, je vais entendre nos auditeurs 01 53 48 3000, s'ils veulent venir commenter cette actualité. Je pense aussi à tous ces Chibani, enfin les retraités qui passent leur temps, évidemment, 6 mois. C'est vrai, Gamal.
Tout à fait.
C'est terrible.
Non, le problème, c'est qu'on met tout dans le même sac et la problématique qui se pose, c'est que déjà, pour 6 mois, c'était dur pour eux. Parce qu'il faut savoir qu'un billet d'avion, ça coûte très cher, qu'ils ont des prestations très faibles en règle générale et que quand ils y vont, ça sacrifie quasiment un mois de salaire. Enfin, de prestations. Mais cette façon de vouloir courir après le pognon des pauvres, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément les riches, pose problème. La fraude doit être condamnée, il n'y a pas à négocier là-dessus, évidemment. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a une pression sur les chômeurs, sur les RSistes, sur ceux qui reçoivent leur retraite. Quand même, les retraites, les gars sont des vieux monsieur et vieilles dames qui sont fatigués. Et ça interroge. Moi, je pense que Bruno Attal fait son travail comme prévu.
Bruno Attal, qu'est-ce que vous avez avec Attal?
C'est à cause de Bruno Pomard.
Insupportable, ce mec, en plus.
Oui, non, c'est
Gabriel Attal, il
porte le nom d'un an, je pense que c'est dur. Mais il faut savoir vraiment qu'il est dur dans la mesure
beaucoup
où...
Beaucoup considèrent que c'est inadmissible comme...
C'est des méthodes vraiment antisociales, on peut le dire. Voilà. Et ça va lever la gauche contre eux parce qu'effectivement...
Beaucoup sont en train de dire que c'est inadmissible.
Ouais, le sentiment, voilà, c'est la chasse aux pauvres qu'il laisse. Et le problème, c'est que M. Attal, il promet...
Je prendrai quelques auditeurs, justement, au 01 53 48.
Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'abus? Lorsqu'il y a des lois qui tombent comme ça, je ne pense pas que le gouvernement veuille faire des lois à tout prix pour taper sur les pauvres, etc. Je ne veux pas aller jusque-là, mais est-ce qu'il n'y a pas tellement de fraude sociale? Au-delà de ça, il y en a d'autres ailleurs. Il y a une vraie question qui se pose. Si on le fait, c'est qu'il y a, je pense, une étude qui a été faite sérieuse.
Moi, je suis d'accord avec toi sur
une
question.
On claque pas des doigts en disant, tiens, on va taxer les...
Non, je pense, mais ça, je pense que M. Macron l'a dit, ça coûte un fric monstre. Oui. Déjà, il a donné la couleur. Je pense que je serais d'accord avec toi s'il y avait un équilibre dans la répression des fraudeurs. C'est-à-dire que le fraudeur au col blanc, lui, est pas inquiété. On va pas chercher l'argent qui est caché dans les écaillements. Et cela, c'est des sommes faramineuses. On n'est pas sur des petits détournements. Tout ce qui est blanchiment.
Mais qu'on a récupéré un peu de pognon quand même.
Oui, mais pas grand chose. Tout ce qui est blanchiment, tout ce qui est optimisation excessive, tout ça, c'est pas vraiment bien fait, alors qu'il y a plus de pauvres que de riches, évidemment, donc on pourrait taper sur la majorité que la minorité.
Hassan Ben Barek.
Pour reprendre un peu ce que disait Gamal, je suis totalement d'accord, c'est que l'ensemble de la fraude, généralement, c'est la fraude aux entreprises, avec les dotations aux amortissements, je veux dire, c'était 80 ou 85%. Je crois qu'il y avait des études du ministère des Finances qui disaient que la fraude, c'est 80 à 85% le fait d'entreprises qui font de l'optimisation fiscale et qui montent des dispositifs financiers assez efficaces.
Très élaboré, d'ailleurs.
Maintenant, sur la mesure qui a été mise en place par M. Gabriel Attal, c'est vrai qu'il y a eu énormément de fraudes. Énormément de fraudes. On parle des gens âgés. Bon, pour le
fraude sociale. Hein.
Ouais. Pour le minimum vieillesse. Bon, là, je pense que on aurait pu peut-être faire une exception pour les personnes âgées en disant bon, voilà, on maintient 6 mois.
Exact.
Et pas 9 mois. C'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, 70 ans, voilà.
Je remercie pour moi, c'est sympa.
Vous pouvez rester 9 mois. Non, mais je pense, pour le minimum vieillesse, mais pour tout le reste, il y a eu énormément d'abus. Il y a des gens qui allaient à l'étranger, qui scolarisaient leurs enfants à l'étranger, qui touchaient les allocations familiales ici. Exactement. Donc tout ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Par contre, les gens qui touchent leur retraite ne sont pas concernés.
Ils sont pas en vacances, en plus.
Voilà. Donc je crois que, de ce côté-là, je pense que c'était une mesure qui était plus ou moins nécessaire. Simplement, je mets un bémol sur la durée pour les personnes âgées, quoi. Voilà.
Les auditeurs ont la parole. C'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ah, parce qu'il faut les entendre, les auditeurs aussi, évidemment, sur ce sujet. Absolument, Katia, je vous redonnerai la parole volontiers.
Toutes les personnes.
Sofiane d'Argenteuil, tiens, et ensuite après Faouzia. Sofiane, bonsoir, Sofiane.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour cette émission.
Bienvenue, on vous sent, Sofiane.
Voilà, je voudrais juste savoir et comprendre, est-ce que les 3 mois feront la différence, les 3 mois qui ont été rajoutés pour vivre en plus en France, est-ce que ça fera une différence? Avant c'était 6 mois, aujourd'hui c'est 9 mois, enfin ça va être 9 mois. Est-ce que ça rajoutera une différence, sachant que je vais être bientôt retraité et qu'avec 800 euros de retraite, est-ce que les 3 mois que je serai obligé de passer chez moi au pays vont me suffire? Voilà, c'est un peu ça.
Bonne question.
Alors,
Katia,
en toute objectivité, par rapport à ce que je vois, étant donné que je m'occupe de tout ce qui est lutte contre le blanchiment.
Mais les retraités, c'est un peu à part, il me semble.
Oui, c'est à part. Non, mais concernant sa situation, en effet, je ne suis pas convaincue que les 3 mois vont changer grand-chose. Maintenant, il fallait faire aussi une harmonisation. On en revient toujours à cette harmonisation. Le RSA, c'est 9 mois. Donc, il a voulu aussi faire en sorte que tout soit à 9 mois par rapport à ça. Maintenant, lutter contre la fraude sociale, je pense qu'il faut mettre des contrôles, tout simplement. C'est pas le temps qui va faire la différence.
Qu'est-ce que vous répondez à Sofiane?
Peut-être sur certains cas, uniquement.
Je dis que oui, 9 mois. Ça change beaucoup pour des personnes âgées,
oui,
puisque ils sont 6 mois dans leur pays d'origine, ils sont obligés de revenir 6 mois ici, et puis généralement, bon, ici tout est cher, donc je crois que c'est quelque chose de relativement important pour les personnes âgées, donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait, savoir s'il n'y aurait pas une exception concernant les personnes âgées, où là, on devrait rester sur le dispositif ancien, mais par contre, tout le reste, les allocations familiales, tout ce qui est fraude et tout, bon, je pense que là, 9 mois, il y a un moment, il faut être présent plus longtemps en France que dans un pays extérieur.
Voilà, Sofiane. Voilà.
J'aurais une petite dernière question, si vous me permettez.
Oui.
Quand vous parlez de fraude, est-ce qu'il y a possibilité de nous donner, de nous informer sur le pourcentage de fraudeurs? Parce qu'on parle de fraude en généralité, oui, je l'accepte, il y a toujours des fraudeurs. Mais combien par rapport à tous ces retraités, à toutes ces familles?
On a des chiffres, on n'a pas de chiffres.
On ne parle pas des retraités.
C'est que les estimations.
Non, les retraités, généralement, ne sont pas dans la fraude. Non, les retraités, non. Les personnes âgées, non.
Je vois quelques dossiers et on n'a pas trop de soucis. On n'a même pas de soucis avec ces personnes.
Les retraités, non.
C'est vrai qu'on aurait pu les exclure. Exactement. Ils ont travaillé.
Merci, Sofiane.
Ça n'a pas été fait.
Bonne soirée.
Faouzia de Paris. Bonsoir, Faouzia.
Voilà.
Oui, bonsoir. Vraiment, je tiens à vous remercier pour ce sujet. Oh, combien je l'ai attendu. Vraiment.
Ah, bah écoutez, allons-y, parlons-en.
Alors, je vous assure, d'abord, je préfère me présenter par rapport à mon travail, parce que c'est très intéressant. Après, je vous dirai ce que je pense. D'ailleurs, je vais choquer la terre entière, mais j'assume. Moi, je suis directrice d'une crèche. Vous savez, pour trouver des professionnels, il faut chercher avec une loupe. Dingue, vous allez au chômage, vous trouvez 46 000 personnes, ils sont au chômage. Les abus des accidents de travail, les abus des arrêts de maladie. Moi, je vous assure, je parle de moi parce que je gère une crèche. J'ai une amie qui est responsable dans une maison de retraite. J'ai des copines qui sont dans les hôpitaux. Mais tout le monde cherche des professionnels. Oui. Mais ils sont tous au chômage. Je ne comprends pas ça.
Personne ne veut travailler.
Moi, je suis scandalisée et je suis tout à fait d'accord avec le ministre. Je suis désolée.
Faut remettre les gens au travail, vous voulez dire?
Oui, non, mais attendez, moi, là, vous vous rendez compte, on est en train de gérer une micro-crèche de 14 berceaux avec, on est 3 professionnels.
Oh, oui.
C'est dur pour nous, c'est dur. Mais pas comme on aime ce qu'on fait. On est des professionnels à part entière. On aime ce qu'on fait. On respecte l'engagement des parents. Les parents, ils travaillent. Il faut qu'on s'occupe de leurs enfants. Mais pour trouver des professionnels, eh ben, c'est impossible. Trouver un médecin peut-être, mais pas... Après, je ne parle pas de forcément les crèches, les maisons de retraite, les hôpitaux,
Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Voilà. Ça veut dire quoi, ce que nous dit? Merci Fawzia, c'est rempli de sens de ce qu'elle nous dit, Fawzia, parce que...
Voilà, moi j'en ai marre des gens qui sont au chômage et qui ne foutent rien. Les arrêts de maladie, ils partent à l'étranger. Les accidents de travail, ils partent à l'étranger. Et je sais
c'est ça qu'elle voulait dire. C'est pour ça que je dis, c'est une question qui est bourrée de sens. En gros, elle pointe du doigt ceux qui sont au chômage et qui n'en branlent, pardonnez-moi la trivialité du terme, qui n'en branlent pas une.
Ça, c'est vraiment
en gros, ce qu'elle dit.
Alors, parlons-en. On se lève à 5 heures du matin. On travaille, il y en a qui profitent.
Elle trempe la plume dans la plaie. Merci Fawzia, merci.
On est parti sur un autre sujet, parce que là, on n'est plus sur les fameux 9 mois de, entre guillemets, de carence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les 9 mois d'attente avant de toucher des allocations.
Ça, c'est le sujet de la semaine dernière, ça, quand il a commencé à faire
pression. C'est intéressant ce qu'elle a dit, la dame.
Oui, non, mais
c'est intéressant. Absolument.
Parce que c'est facile à parler comme ça, elle peut se permettre de le dire. Parce que
c'est toujours pareil, c'est des contrôles.
Les déserts médicaux, c'est qu'il n'y a pas de formation, les gens ne sont plus formés.
Oui, mais
elle travaille. Mais on en revient toujours au contrôle. C'est contrôler. Le délai qu'on pourra mettre, ça pourra en effet peut-être éviter certaines fraudes, mais il faut du contrôle. Et comme je dis toujours, nous, on peut faire le travail que l'on veut à Tracfin, et j'en parle souvent, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour traiter tous ces cas-là.
200 personnes, je crois, à Tracfin.
400 aujourd'hui. 400 ils ont augmenté les effectifs, mais 400 personnes, qu'est-ce que c'est pour,
parce que par rapport en comparaison de la masse de travail.
C'est ça qu'il va falloir surtout renforcer.
Continuez de nous appeler au 01 53 48 3000, où on va parler, vous savez quoi, de cette présidentielle. Un sondage exclusif, justement, à être tombé tout à l'heure pour le Figaro, et il dit quoi? Il dit Le Pen l'emporterait contre Philippe ou Attal. Alors, le sondage, je vais essayer d'en parler. On voit bien qu'il y a une percée de Gabriel Attal et de Jordan Bardella. Effondrement de Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Et ce que je retiens, c'est que Marine Le Pen domine. Elle est désormais favorite et elle est même vainqueur. Alors, 2027, est-ce que c'est pas déjà dans la tête de beaucoup de gens? Moi, j'ai l'impression que c'est trop tôt.
Exactement. On est en 2024 et on nous parle de 2027.
Trois ans, c'est beaucoup.
Il peut se passer plein de choses, exactement. Et on voit bien que les sondages évoluent en fonction de l'actualité. Donc, ça peut très bien évoluer du jour au lendemain. Un jour, ça sera Marine Le Pen parce que les sujets vont plutôt dans son sens. Et le lendemain, ça sera plutôt Edouard Philippe. Exactement. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on peut pas parler de résultats à la date, à l'instant T.
Mais on va finir. Moi, c'est pas ma tasse de thé, évidemment. Mais on va finir. Mais on a que ce qu'on mérite, on a que les politiques qu'on mérite. Au bout d'un moment, on a tout essayé, la droite, la gauche, chacun se renvoie la balle, une fois c'est les uns, une fois c'est les autres. Résultat, on voit le Front National depuis Jean-Marie Le Pen jusqu'à Marine Le Pen et maintenant Jordan Bardella arriver à 32% aux élections européennes. C'est quand même un truc de fou. Ouais. Les autres sont laminés derrière. Il n'y a plus personne qui existe. Ben, on n'a que ce qu'on mérite, voilà, tout simplement.
Bon, qu'est-ce que vous entendez par ça?
On a les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire, demain, Marine Le Pen arrive au pouvoir, on n'aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes. C'est tout, point final. Et les politiques en premier. Les socialistes comme la droite, comme toute la clique qui se file le pouvoir depuis des décennies.
Ouais. Hassan,
écoutez, c'est quand même, je pense que... À l'opposé de ce que tu disais, Adil, je pense que c'est 2007, c'est demain, quoi. C'est 36 mois.
C'est ça.
Donc ça va passer très, très vite.
C'est long et pas long.
Il peut se passer plein de choses.
Non, il peut se passer plein de choses, mais pour l'instant, il y a quand même quelque chose d'assez constant.
C'est pas dans un an.
Quelque chose qui est quand même assez constant, c'est que dans toutes les configurations, on voit bien que Marine Le Pen, toutes les configurations d'hommes politiques au centre ou au centre droit ou à gauche, on voit bien que la tendance, c'est qu'à chaque fois, Marine Le Pen remporte la mise.
En tout cas, le duo
Bardella-Le Pen est un duo qui fonctionne, est un duo extrêmement efficace. Donc maintenant, la question qui se pose, en particulier, je pense, à l'Élysée et auprès de M. Macron, c'est de savoir comment faire en sorte que en 2007, Marine Le Pen ne gagne pas la présidentielle. C'est le vrai problème. Qu'est-ce qu'il va falloir sortir de pertinent pour faire barrage?
Plus rien.
Je pense pas. Moi, je pense qu'il faudrait se tourner dans le passé. Moi, je me rappelle, peut-être certains auditeurs n'étaient pas encore nés, mais en 1985, par exemple, lorsqu'il y avait François Mitterrand, qui était battu par une alliance entre le RPR et l'UDF, avait introduit la proportionnelle.
Il avait
introduit la proportionnelle en 1985 avec le 49-3. Et lorsqu'il a introduit la proportionnelle avec le 49-3, il y a une trentaine à l'époque de députés du Front National, donc l'ancêtre du Rassemblement National, qui étaient rentrés à l'Assemblée nationale.
D'accord. Et l'époque, l'UDF et le RPR, qui étaient gagnants.
Il a cassé la droite avec ça.
Il avait cassé. Bah oui. Il avait réussi à casser. Alors, attends, mais je voudrais aller plus loin.
On doit rendre l'antenne. Hein.
Ouais, parce que là,
oui,
c'est.
Mais... On doit rendre l'antenne.
Oui, voilà, ouais. Mais je voulais juste te dire, ouais, que.
Merci, Mitterrand.
S'il y a une chose, s'il y a une chose importante à lancer aujourd'hui, ce serait peut-être le vote obligatoire. Ouais. Je pense que Macron, ouais, devrait lancer le vote obligatoire.
C'est
pourquoi
vrai, c'est pas faux.
Parce que ça ferait qu'il y aurait 13 millions.
Alors, simplement pour dire une chose, c'est que. C'est bon, c'est une bonne idée, leur vote obligatoire. Simplement pour dire que, effectivement, dans les sondages, on met toujours Le Pen devant. On se rend compte que l'Europe s'extrême droitise. Mais il y a un système qui fonctionne très bien, où ils ont été capables de nous prendre un Macron qui sortait de nulle part. Ils nous parlent de Attal qui n'est pas du tout au rendez-vous. Ils nous parlent de Bardella qui n'est pas au rendez-vous. Ils ne sont pas forts. C'est pas de vraies politiques. C'est la vieille branche, la vieille garde qui va l'emporter. Et je pense qu'ils vont nous sortir un homme de droite qui aura les idées un petit peu extrême droite, oui, mais qui va l'emporter.
Pourra pas gagner.
Le problème, c'est que je ne crois pas à la victoire d'une femme, Marine Le Pen, parce que c'est une femme en France. On ne votera jamais pour une femme à la tête de l'État.
Moi, je pense qu'il ne pourra pas gagner et qu'il va falloir imposer le vote obligatoire pour augmenter le corps électoral.
Merci.
Parce que tous les gens dans les banlieues, à droite, à gauche, qui ne votent pas, vont devoir voter.
C'est pas con. Hein,
ouais, là, tu fais monter le LFI. Hein, faisant ça. Ouais.
Ouais. Non, je fais le barrage au
fond. Merci, Gamal Abidine.
Ah, oui.
Merci, Bruno Pomar.
Merci.
Merci, Hassan Ben Barak. Merci à la réalisation. C'était
Bilal Solal. Merci, Solal. Merci.
Bilal, à
20h.
21h. Le débat continue ou quoi? 21h, c'est Vanessa. Demain, c'est Kim. À demain avec autant de plaisir. Mais d'ici là,
on lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.com.